les grandes contestations du 19e siècle et la longue période de stagnation de la première moitié du 20e siècle, la Bible connaît aujourd'hui un renouveau de popularité. On lit, on interroge et on sonde les Écritures plus que jamais et on y découvre sans cesse de nouvelles merveilles. Les prodiges effectués par Jésus et ses apôtres sont une des choses qui frappent le plus de personnes à la lecture du Nouveau Testament. Le fait n'est pas nouveau, car depuis très longtemps déjà, un certain halo de mystère entourait ces miracles. De nos jours, cependant, on s'interroge peut-être d'une manière plus concrète et plus directe, grâce à une meilleure connaissance de la Bible. Des groupements religieux se réclament des miracles pour arriver à mieux étayer leur doctrine variée. Certains attirent une multitude de gens par de fallacieuses promesses de guérison. D'autres, par contre, prétendent avoir reçu des révélations miraculeuses ou des pouvoirs surnaturels. Qu'en est-il exactement? Ces miracles existent-ils réellement? Si oui, quel est leur but? Sinon, pourquoi tromper ainsi? Quelle est la volonté de Dieu en ce qui concerne ce problème? Voulez-vous vous pencher sur la Bible avec moi pour essayer de cerner la question et de répondre à ces dilemmes parfois angoissants? Voyons tout d'abord dans le Nouveau Testament la nature même des miracles qui y sont relatés. Jésus était nanti d'une puissance et d'un pouvoir énormes. Nous voyons tout d'abord dominer la nature quand, après s'être endormi à la poupe d'une barque à moitié submergée par une tempête, ses disciples le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu donc pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il eut un grand calme. À une autre occasion, voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles, et lui dit, « Que jamais fruit ne naisse de toi. » Et à l'instant, le figuier sécha. Le Fils de Dieu pouvait également dominer la maladie, comme le prouve la guérison de la belle-mère de l'apôtre Pierre. Donc il toucha la main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et le servit. Il guérit également instantanément la lèpre, pour ne citer bien sûr que cette maladie-là. Un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt, il fut purifié. Même les démons ne pouvaient lui résister. Le soir du jour où il guérit la belle-mère de Pierre, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit les malades, nous dit la Bible en Matthieu chapitre 8, verset 16. Les choses matérielles étaient aussi souvent l'objet de ses préoccupations, et là encore sa puissance se manifestait. Il changea de la simple eau en excellent vin, multiplia 5 petits pains et 2 poissons de manière à rassasier une grande foule, fit apparaître une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson pour aider quelqu'un à payer ses impôts. Signalons encore qu'il possédait le pouvoir de ressusciter les morts. Chacun a en mémoire la résurrection de Lazare et celle du fils de la veuve de Naïn. Ceux qui prétendent aujourd'hui détenir les mêmes pouvoirs que Jésus et les apôtres se trouvent pourtant dans la totale incapacité de faire des choses présentant les mêmes caractéristiques. Cela devrait faire réfléchir tous les pauvres gens que l'on abuse par de fausses promesses, de faux espoirs, et dont on tire parfois, ce qui est encore bien plus grave, un certain profit direct ou indirect. Tous ces détails m'amènent à vous faire également remarquer que le miracle relaté dans la Bible était des manifestations visibles, tangibles et immédiates. Il ne s'agissait pas toujours de maladies internes non plus, telles que rhumatisme, maux de tête, de foie ou d'estomac et autres. Tout le monde pouvait voir la tempête s'apaiser, le figuier sécher sur le champ, la belle-mère de Pierre se lever, les plaques de lèpre disparaître. Une immense foule avait vu les pains et les poissons se multiplier presque à l'infini. La pièce de monnaie apparue subitement dans la bouche du premier poisson qu'avait pêché Simon-Pierre avait également été vue par plusieurs témoins. La plupart des gens pouvaient même toucher l'objet du miracle, comme le figuier, les plaques de lèpre, les pains et les poissons, ainsi que la pièce de monnaie. Ces miracles avaient également un effet immédiat. Ces gens, ces choses, ces éléments de la nature étaient guéris, transformés, calmés immédiatement, sans délai aucun. il s'agit là de prodiges effectués par le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'il présentait ses caractéristiques spéciales. C'est la raison pour laquelle on ne voit plus ce genre de miracle de nos jours. Il est pourtant étrange d'entendre Jésus dire à ses apôtres réunis, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Il est également étrange de constater que les miracles effectués par ces mêmes apôtres présentaient des caractères typiques tout à fait semblables, c'est-à-dire qu'eux aussi étaient visibles, tangibles et immédiats. Pierre et Jean guérissent immédiatement devant une des portes du temple un homme boiteux de naissance. Le troisième chapitre du livre des Actes nous dit que tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Un autre apôtre ressuscite Dorcas devant toute une foule. Paul ramène également à la vie un jeune homme nommé Eutychus, tombé du troisième étage à Troas. Toute l'assemblée réunie assiste à cette chose prodigieuse. Peu après, le jeune homme mange et parle avec l'assistance. C'est encore le même apôtre Paul qui, conformément à la promesse de Jésus, ne fut nullement incommodé par la morsure d'une vipère, à tel point que les gens qui étaient avec lui s'attendaient à le voir enflé ou tomber mort subitement. Mais après l'avoir longuement attendu, voyant qu'il n'y arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un dieu. Les pages du Nouveau Testament sont absolument émaillées de récits de miracles, de guérisons, de lépreux, de fiévreux, d'aveugles, de boiteux, de sourds, de muets, de paralytiques, de lunatiques et même d'hydropiques. Une oreille tranchée redevient normale. Une main séchée et atrophiée retrouve toute sa vigueur. Des morts ressuscitent. Par deux fois, on nourrit la foule à partir de presque rien. Et on pourrait continuer à en citer d'autres pendant très longtemps. À un point tel que l'apôtre Jean s'écrit à la fin de son évangile, « Jésus a encore fait beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. » On ne peut s'empêcher, si on est logique, de se demander, « Voit-on encore de telles choses aujourd'hui ?» Toujours au nom de cette même logique, on doit admettre que non. Oh, il existera toujours des personnes pour dire, et surtout écrire, que cela s'est vu aux Indes ou en Afrique, ou encore dans telle ou telle ville éloignée de la vôtre. Mais franchement, avez-vous assisté à des miracles semblables? Écoutons avant tout l'apôtre Jean nous dire avec une immense sollicitude. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs sont faux prophètes sont venus dans le monde. De nos jours, ceux qui prétendent être à même d'accomplir des miracles par la puissance de Dieu doivent bien admettre, car cela saute aux yeux, qu'ils ne réussissent pas toujours dans leurs tentatives. C'est curieux, car les apôtres, eux, ne faillissaient pourtant jamais. On dit souvent que si on n'est pas guéri, c'est tout simplement parce qu'on manque de foi. À cela, je réponds en utilisant, comme d'habitude, la Bible. En Jean chapitre 5, il nous est donné le récit de la guérison miraculeuse d'un paralytique, à qui Jésus avait dit tout simplement « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Peu après, les pharisiens lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit « Prends ton lit et marche » ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus. Il avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Il ne fait par conséquent aucun doute que cet homme n'avait pas la foi, puisqu'il ne savait même pas qui était Jésus. Marthe, la sœur de Lazare, n'avait pas non plus la foi, car quand Jésus lui dit d'ôter la pierre du tombeau, elle répond, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Paul accomplit un jour un miracle sur la personne du proconsul Sergius Paulus. Il lui déclara, « La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Alors, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Ce n'est donc qu'après ce prodige que cet homme crut. Peut-être est-il utile de citer également le cas de la servante qui avait un esprit de python, c'est-à-dire un démon, et qui fut guérie instantanément après que Paul lui dit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à leur manne. Non, il est évident que la foi n'était pas toujours exigée de la part de ceux que Jésus ou les apôtres guérissaient. Le contraire est toujours valable. Ce n'est pas parce qu'on a la foi, même une foi brûlante, que Dieu nous guérira. L'apôtre Paul était malade et probablement infirme. D'autres disciples l'étaient également, tels que Épaphrodite, Trophime et Timothée, et aucun miracle n'a jamais été effectué pour eux. J'ai souvent entendu exprimer l'idée que le vrai chrétien devrait avoir une foi assez grande pour ne jamais aller chez le médecin, car il faut compter uniquement sur Dieu et ses serviteurs pour être guéri. Pourquoi alors, Jésus dit-il, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades? Et Luc, n'était-il pas lui-même médecin? Jamais le Nouveau Testament ne nous laisse même supposer un seul instant que le fait d'aller trouver un médecin indique un manque de foi ou de confiance en Dieu. Je réalise que je n'ai fait qu'effleurer le sujet que je m'étais proposé de traiter. Il est tellement vaste et tellement important aussi qu'il me paraît presque indispensable de poursuivre notre entretien sur le miracle, le baptême et le don du Saint-Esprit au cours d'une ou plusieurs de nos prochaines émissions.